21 mars 2018. Bonjour à tous, c'est Hélène Denis qui vous accueille à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Bonne vraie journée de printemps, la complète, parce qu'hier, le printemps...
C'était autour de midi et quinze,
et puis là, ben c'est la vraie de vraie, avec du beau soleil, puis du temps toujours froid.
Oui, mais c'est un pas dans la bonne direction.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai dit ça juste pour chialer, mais je suis très heureuse.
Et pareillement. Et en ce 21 mars, j'ai tellement d'informations à vous dire.
Je vous écoute.
Donc, vous pouvez revenir dans 30 minutes, le temps que je finisse ma chronique.
Je vais me chercher un deuxième café.
21 mars, en fait, je ne sais vraiment pas par où commencer. Je pourrais vous souhaiter bonne journée internationale des forêts, bonne journée de la poésie, bonne journée du livre voyageur, bonne journée de la marionnette, bonne journée mondiale du rangement de bureau. Mais je vais plutôt choisir de m'attarder à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la Journée mondiale du travail social et la Journée mondiale de la trisomie 21.
Oui, d'ailleurs, on porte des chaussettes dépareillées aujourd'hui.
Absolument.
Dans le cadre de cette journée pour célébrer la différence.
Et si vous portez des chaussettes dépareillées, envoyez-nous vos photos.
Oui, on aimerait ça.
Alors, je vais y aller rapidement avec mon top 20 des événements marquants pour ce 21 mars. En 1152, Louis VII répudie sa reine Aliénor d'Aquitaine pour cause de consanguinité. Consanguinité. Bref, pour cause de consanguinité alléguée entre eux. 1349, la majorité des Juifs d'Erfurt en Allemagne est massacrée par le reste de la population qui la rend responsable de la peste. 1556, sous la reine Marie Tudor, l'archevêque de Canterbury est brûlé pour hérésie. 21 mars 1666, l'intendant Jean Talon mène un recensement qui donne 3215 Européens au Canada. 1804, entrée en vigueur du Code civil, à l'époque on disait le Code de Napoléon. 1821, fondation de l'Université McGill de Montréal. 1841, en France, toujours un 21 mars, adoption d'une loi réglementant l'exploitation des enfants dans l'industrie et qui interdit le travail des enfants en dessous de 8 ans. Le limite à 8 heures pour ceux de 8 à 12 ans, de 12 heures pour ceux qui ont jusqu'à 16 ans. Mais mal appliquée, cette loi ne supprimera pas la torture qu'on inflige à des enfants de 6 à 8 ans, obligés de parcourir dès 5 heures le matin la longue distance qui la sépare des ateliers. Bref, autre temps, autre mœurs, content que dans plusieurs pays, ce soit une chose du passé.
Mais il y a encore du travail à faire.
Absolument. 21 mars 1846, le saxophone est breveté par son inventeur Adolphe Sax. 1865, l'île du Prince-Édouard se prononce contre la Confédération. Elle y entrera quand même en 1873. 1884, en France, la loi autorise les syndicats de salariés. 1902, la dernière exécution par pendaison en public au Canada a lieu. Dans la ville de Hull, maintenant Gatineau. 1960, à Sharpeville, en Afrique du Sud, la police tue 69 manifestants noirs à un point tournant de la lutte aux régimes de l'apartheid. 1961, encore un 21 mars, dans le Cavern Club de Liverpool, premier spectacle des Beatles. 1963, dans la baie de San Francisco, fermeture de la prison d'Alcatraz. 1965, encore un 21 mars, plein de choses à dire en ce 21 mars.
Mais c'est vraiment intéressant.
À Selma, en Alabama, début de la marche de 5 jours de Martin Luther King et de 8000 militants des droits vers la ville de Birmingham. 1979, on est cette fois-ci au Québec, ici même à Montréal, au Théâtre des Voyagements, première de la comédie Brou. 1991, la Cour suprême du Canada statue que le fœtus n'est pas une personne au sens du code criminel. 1994, dans le cadre de la 66e cérémonie des Oscars, la remise de ses statuettes marque le triomphe de Steven Spielberg, dont le film La liste de Schindler remporte 7 statuettes, incluant celle pour meilleur film et meilleur réalisateur, tandis que Jurassic Park en récolte 3. Donc, quand même, bonne année pour Steven Spielberg. Mm-hmm. Également, cette année-là, le film Philadelphia rapporte un Oscar à Tom Hanks comme meilleur acteur. Et meilleure musique pour film, John Williams pour la liste de Schindler. Cette fois-ci, 21 mars 2006, lancement d'un petit site qu'on connaît quelque peu, Twitter.
Ah,
Twitter
oui.
Qui souligne son 12e anniversaire aujourd'hui. Et en 2010, la Chambre des représentants approuve la réforme de la couverture de santé, le projet phare de l'ancien président Obama, assurant une assurance maladie à plus de 32 millions d'Américains qui en étaient privés, un dossier qui fait encore jaser aujourd'hui chez nos voisins du Sud. 21 mars, c'est l'anniversaire de naissance de Jean-Sébastien Bach en 1685 et également en 1912, la naissance du journaliste et politicien québécois André Laurendeau. Et décès finalement en ce 21 mars en 1991, le décès de Leo Fender, l'inventeur de la guitare électrique.
Ah oui. Alors, Jean-Sébastien, moi, je tenais à souligner, avec quelques jours de retard, votre 5e anniversaire en tant qu'employé à Canal M. Bravo.
Merci.
Merci. Vous êtes un collègue précieux, indispensable, très apprécié de tous.
Merci bien, Hélène.
À la une de la presse, Montréal se vide, la Gaspésie fait le plein. Vol dans une mine de crypto-monnaie. Ferme ta gueule ou on te tue, c'est une citation. Exclusif, résidence pour aînés, des normes resserrées, d'autres assouplies. La chronique de Mario Girard intitulée « Rire en double ». On parle ici des festivals d'humour. Et affaire, réforme de la loi sur les normes du travail, plus de flexibilité pour les employés. Montréal a perdu l'an dernier 19 900 citoyens, essentiellement au profit de sa banlieue. Si le nombre de personnes ayant décidé de venir s'établir dans l'île est stable depuis plusieurs années, environ 38 000 par an, les rangs de ceux qui ont décidé de quitter l'île ont fortement progressé pour atteindre la barre des 58 000 en 2017. Les données de l'ISQ, qui est l'Institut de la statistique du Québec, démontrent que la métropole perd principalement de jeunes familles, puisque les pertes se concentrent chez les gens âgés de moins de 15 ans, ainsi que chez les 25 à 44 ans. Le déficit marqué chez les 0-14 ans indique que les familles avec enfants demeurent plus nombreuses à quitter l'île qu'à s'y établir, note le rapport. Les données démontrent que les Montréalais quittent l'île pour s'établir dans les régions limitrophes du 4-5-0. Fait particulier, Laval aussi fait les frais de cet exode. Bien que l'île Jésus ait attiré près de 5 000 Montréalais l'an dernier, la région n'affiche pourtant qu'un maigre bilan positif de 260 nouveaux résidents. Pourquoi? De nombreux Lavallois ont eux-mêmes choisi de quitter leur ville pour s'établir plus en périphérie, principalement dans les Laurentides, mais aussi dans la Naudière et en Montérégie. Pour une rare fois, la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a enregistré un bilan positif en 2017 avec 122 nouveaux résidents. L'ISQ évoque une année d'exception alors que la région encaisse des reculs marqués depuis plus de 15 ans. La mairesse Valérie Plante a convenu que Montréal a encore énormément de travail à faire pour garder les familles. Pour y arriver, elle dit vouloir améliorer l'offre en habitation, le coût d'accès étant l'un des principaux facteurs poussant les familles à opter pour la banlieue. Des normes resserrées, d'autres assouplies. Après des années d'attente, Québec revoit finalement les normes de sécurité dans les quelques 2000 résidences pour personnes âgées. Il les resserre pour la grande majorité d'entre elles, soit celles qui hébergent des aînés ayant une perte d'autonomie importante. Mais il les assouplit dans le cas des établissements pour personnes autonomes, a appris la presse. Québec permettra ainsi à des bénévoles ou à des résidents d'y être chargés de la surveillance, le jour comme la nuit. Québec jongle depuis environ 3 ans avec un projet de révision des normes de sécurité dans les résidences pour personnes âgées. L'élément déclencheur a été la tragédie survenue à la résidence du Havre de l'Île-Verte, où 32 personnes ont péri dans un incendie en janvier 2014. Entériné par le Conseil des ministres la semaine dernière, un nouveau règlement sur la certification des résidences pour aînés sera publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec. Sécurité routière, Ottawa s'attaque aux véhicules fantômes. Véhicules fantômes écrit ici entre guillemets. Désirant améliorer la sécurité sur les routes du pays, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, imposera aux constructeurs de voitures que tous les véhicules neufs vendus au Canada soient munis à compter de 2021 de feux rouges arrière qui s'activent automatiquement, en plus des phares avant, comme c'est le cas depuis plusieurs années dès que le moteur est en marche. Pardon, le ministre Garneau annoncera aujourd'hui ce changement aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada afin de s'attaquer à un phénomène qui inquiète de plus en plus les Canadiens, à savoir la conduite de véhicules fantômes ou peu visibles dans l'obscurité parce qu'ils ne sont pas dotés d'un éclairage extérieur approprié. Depuis qu'il est en poste, le ministre des Transports a reçu plusieurs centaines de lettres à ce sujet, selon des informations obtenues hier par la presse. La question de la conduite de nuit des véhicules sans l'éclairage approprié est l'une des plus fréquemment soulevées par les Canadiens qui écrivent à Transport Canada. Les deux travailleurs tués par la tempête de neige du 14 mars 2017 dans Chaudière-Appalaches auraient possiblement pu être sauvés par un déploiement plus rapide de la police, selon le coroner qui a enquêté sur leur mort. Michael Fizette et Pierre Thibault sont morts d'une intoxication au monoxyde de carbone après que la camionnette dans laquelle ils avaient pris place s'est enlisée dans la neige sur un chemin rural de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La route était couverte par 3 mètres de neige à la fin de la tempête. Le poste local de la Sûreté du Québec a mis en branle l'opération de secours rapidement, après leur premier appel au 911, mais un des policiers habilités à conduire des motoneiges était déjà déployé ailleurs, créant un important délai de réponse. Les rapports recommandent au corps de police de changer ses procédures afin de s'assurer que, lors d'une tempête, les policiers motoneigistes soient toujours prêts à répondre aux urgences. Meurtre de l'élu noir Marielle Franco au Brésil, les manifestants réclament justice. Des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Rio de Janeiro hier, près d'une semaine après l'assassinat de l'élu noir Marielle Franco, pour demander justice, alors que cet assassinat a bouleversé le pays. Brandissant des pancartes « Marielle vit » et scandant « Justice », les manifestants ont défilé dans une des principales artères de la ville où l'indignation ne semble pas retomber. C'est important tout ça. Toute cette mobilisation pour que ce crime barbare ne reste pas impuni. Et l'astrophysicien britannique Stephen Hawking sera inhumé à l'abbaye de Westminster à Londres, un hommage réservé aux plus grands, près d'un autre géant des sciences, Isaac Newton, a indiqué hier un porte-parole de l'abbaye sans donner de date. Les obsèques de Hawking se dérouleront, elles, le 31 mars à Cambridge, où il a vécu et enseigné pendant plus de 50 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué diffusé hier. Hawking, réputé pour ses travaux sur l'univers, est décédé paisiblement chez lui à Cambridge le 14 mars à l'âge de 76 ans.
Plein phare, je roule seul au hasard. Je veux rencontrer la nuit noire, me fondre dans ses bras. Radar éteint, j'existe nulle part. Je veux pas croiser un regard, je peux pas oublier le tien. Je pourrais me foutre en l'air, t'en aurais rien à faire. Je sais même pas si tu te souviens que j'ai l'amour fragile. J'ai l'amour fragile.
De la chanteuse Lilipo, la pièce s'intitulait, comme vous l'avez peut-être deviné, Amour fragile.
À la une du Devoir de ce 21 mars, on meurt rarement de froid quand on vit dans la rue. On y meurt d'une maladie chronique, d'une infection virulente ou d'une overdose. Alors qu'on voit un homme tête penchée, la rue à la vie, à la mort. Chaque semaine, des itinérants s'éteignent dans les rues et ruelles de Montréal sans qu'on sache combien exactement. Normes du travail, patrons et syndicats trouvent matière à critiquer. Ottawa présente un projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu. Actualité, un fonctionnaire fédéral défend son droit de travailler en français. La cause d'André Dionne fera jurisprudence. Québec allonge des millions pour l'OSM et BANQ, des subventions surprises pour assurer la suite des choses. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue. L'enquête porte sur le financement de sa campagne de 2007. Emmanuel Macron plaide pour une francophonie décentrée. Facebook, le mauvais usage de données personnelles sème l'émoi. Montréal recensera le 24 avril prochain le nombre de sans-abri sur son territoire. Privés de toit ou en situation de logement précaire, plusieurs sont retrouvés morts chaque année dans la rue. De nombreux intervenants souhaitent qu'on lève le voile sur ces morts cachés. Sans domicile, ils vivent dans l'oubli et meurent dans l'ombre. Pour plusieurs, leur vie en dents de scie n'aura connu en définitive qu'un seul domicile fixe, le cimetière. Comme Denis, nom fictif, 51 ans, retrouvé mort dans le fond d'une ruelle la semaine dernière, l'aiguille encore piquée dans le bras. Ça arrive encore trop souvent. Il y a de plus en plus de risques de décès, mais on préfère ne pas trop en parler, affirme l'abbé Claude Paradis, responsable de l'organisme Notre-Dame de la Rue, qui en a long à dire sur ces morts oubliées. Depuis 4 ans, il tient des cérémonies funéraires à la mémoire de personnes dont les corps non réclamés sont dirigés vers la fosse commune du repos Saint-François d'Assise, un cimetière de l'Est de Montréal. L'an dernier, on y a reçu la dépouille de 101 personnes non réclamées, dont une majorité d'itinérants, affirme-t-il. Les gens meurent dehors, pas dans les refuges. Il faut plus de travailleurs de rue. C'est pas dans les bureaux que ça se passe, mais sur le terrain, insiste ce prêtre favorable à un mécanisme qui permettrait de comptabiliser ces décès de la honte. Le taux de mortalité chez les itinérants est 4 fois plus élevé que celui de la population en général. Compte tenu du vieillissement observé, la Maison du Père a mis en place depuis 1 an 4 lits de soins palliatifs pour éviter que des sans-abri condamnés ne rendent leur dernier souffle seuls dans la rue. Et c'est reparti, le polarisant débat entre tenants et opposants d'un contrôle serré des armes à feu a repris mardi alors que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a dévoilé son projet de loi restaurant certaines mesures qu'avaient abolies les conservateurs de Stephen Harper. Ottawa envisage même d'aller plus loin, jonglant avec l'idée d'interdire les publicités aux accents militaires et d'instaurer la déclaration obligatoire de tout achat de masse. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, croit que ce projet de loi C-171 sera bien accueilli car il représente un bon équilibre. Il y aura des gens qui argueront que ce que nous faisons ne va pas assez loin et d'autres qui diront exactement l'inverse, que nous allons trop loin. Je crois que nous avons une proposition pratique et sensée. De fait, le groupe Poli se souvient juge timide le projet de loi car il permet encore la libre circulation de certaines armes d'assaut et oblige les policiers à obtenir un mandat afin de consulter les registres des commerçants. À l'inverse, les conservateurs estiment qu'Ottawa tente de restaurer un registre des armes à feu par la porte arrière en instaurant une obligation pour les commerçants de consigner leurs ventes. Un fonctionnaire défend son droit de travailler en français. La Cour fédérale a entamé mardi l'audience finale d'une cause aux accents linguistiques qui sera déterminante pour l'ensemble des employés fédéraux au Canada. L'issue de la bataille judiciaire menée par un fonctionnaire fédéral basé à Montréal devrait permettre de savoir pour la première fois comment le gouvernement fédéral doit garantir à ses travailleurs le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix. Bravant le froid en ce mardi matin dans le Vieux-Port de Montréal, André Dionne a pris la parole entouré d'une dizaine de manifestants défendant la langue française. « Ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis ici, portant ma cause devant le tribunal », a lancé ce gestionnaire du bureau du surintendant des institutions financières BSIF avant d'entrer dans la salle d'audience de la Cour fédérale du Canada pour assister aux dernières représentations des avocats avant que le juge Peter B. Annis rende une décision fort attendue. En 2010, M. Dionne a adressé une plainte au commissaire aux langues officielles en affirmant ne pas avoir pu exercer son droit de travailler en français au cours de sa carrière au sein du bureau montréalais du bureau du surintendant des institutions financières. Le plaignant a fait valoir que les gestionnaires du bureau de Montréal doivent rendre compte chaque jour à des directeurs anglophones établis à Toronto et que la communication doit donc se faire presque exclusivement en anglais. Le défi posé au Parlement par Roméo Saganache. Le député néo-démocrate Roméo Saganache est catégorique. C'est son droit constitutionnel de pouvoir s'exprimer aux communes et d'y être compris par ses collègues dans sa langue maternelle autochtone. Les libéraux n'excluent pas l'idée, mais d'entrée de jeu, le greffier de la Chambre prévient que la traduction simultanée d'une cinquantaine de langues autochtones serait ardue. Roméo Saganache s'est exprimé en cri à la Chambre des communes en juin dernier. Mais encore à ce jour, la transcription des débats ne rapporte pas ses propos. On y lit simplement que le député s'est exprimé en langue autochtone. « Je ne veux pas qu'on me dise que, en tant qu'autochtone, oui, tu as le droit de parler ta langue. Oui, tu as la permission de parler ta langue à la Chambre des communes. C'est de la charité », a déploré M. Saganache en comité parlementaire mardi. « Je ne veux pas de charité. » La traduction de toutes ces langues entraînerait enfin nécessairement des coûts. Au Parlement européen, 28 langues sont parlées et la traduction simultanée est, et je cite, « l'item budgétaire le plus dispendieux de leurs opinions », relate le greffier des communes Charles Robert. Le recensement de 2016 dénombrait jusqu'à 57 langues autochtones au Canada. 57 langues autochtones au Canada, pardon. Étages de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants ont été démolis en un seul coup mardi après-midi. Les étages 5 à 16 du bâtiment central se sont écroulés en quelques secondes. L'opération n'a pas nécessité l'utilisation de dynamite. Des câbles ont été utilisés pour tirer les structures déjà affaiblies par des altérations aux éléments structuraux, a précisé le promoteur Devenco. De retour après la pause avec la revue de presse du Journal de Montréal. CA.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses. Fouetté par la poussière, dévoré par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Que tes repères à des millions de pas. On est venu à pied du fond de la misère. Ne nous arrête pas. Retourne à la maison. Et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imagine. imaginer la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe. On a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout devant les barbelés, sur le ciel minéral, tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Un petit 5 minutes de paradis avec ses croisières méditerranéennes. C'était Bernard Lavillier sur Canal M.
À la une du Journal de Montréal de ce 21 mars, une photo de Claude Julien qui a un air, disons, préoccupé. Sa pire saison, l'entraîneur Claude Julien admet son désarroi face à la saison du Canadien. La chronique de Régent Tremblay intitulée « La grogne populaire pourrait faire mal ». Malaise chez les médecins gériatres, une prime de 55 $ pour soigner un aîné de 85 ans. Point de suspension, sous cette nouvelle, sous ce titre, on peut lire « Pendant ce temps, des infirmières collectent des fonds pour se payer cet équipement » avec une flèche rouge qui montre un appareil à signes vitaux. La prime pour les aînés sera revue. Ce supplément de 45 à 55 $ est versé au gériatre lorsqu'il voit un patient de 85 ans et plus. Le président de l'Association des médecins gériatres du Québec, le Dr Serge Brazeau, reconnaît que ce supplément, c'est ainsi qu'il est nommé dans le manuel de facturation, peut soulever des questions. « Je n'aime pas le terme supplément, ça ne sonne pas de la bonne façon, on devrait être rémunéré en fonction de la difficulté des cas », dit le spécialiste à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. La prime pour patients âgés est entrée en vigueur en novembre 2009, au moment où le gouvernement et l'ensemble des médecins spécialistes avaient amorcé le rattrapage salarial. Selon le Dr Brazeau, la création du supplément pour voir des patients âgés visait à reconnaître le fait qu'il est souvent plus complexe et plus long de traiter les gens qui ont au moins 85 ans. Le spécialiste reconnaît toutefois qu'il s'agit d'un critère plutôt arbitraire. Est-ce qu'on pourrait l'ajuster mieux? Certainement, dit-il. Il y a une vingtaine d'années, les gériatres étaient payés selon un tarif horaire. Depuis, les gériatres ont notamment obtenu d'être payés à l'acte. Avec un salaire annuel moyen de 459 099 $, ils ont rattrapé et même dépassé la moyenne de rémunération des médecins spécialistes qui s'établissait à 443 161 $ en 2015-2016. Il reste tout de même des dizaines de postes de gériatres à pourvoir dans les hôpitaux, malgré la hausse de la demande liée au vieillissement de la population. On compte 83 médecins spécialistes en gériatrie au Québec. Le Le scandale Facebook prend de l'ampleur. Une compagnie aurait suggéré de piéger des politiciens. La société Cambridge Analytica, accusée d'avoir illégalement acquis des données d'utilisateurs de Facebook, a annoncé hier la suspension de son patron après la publication d'une enquête par Channel 4 dans laquelle il suggère des techniques pour piéger des hommes politiques. Alexander Nix est suspendu avec effet immédiat dans l'attente d'une enquête complète et indépendante, a écrit Cambridge Analytica, CA, dans un communiqué. Interrogé dans The Times, Alexander Nix a démenti avoir tenté de piéger des hommes politiques. Spécialisé dans la communauté stratégique, CA est accusé d'avoir collecté sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs. En deux jours, le titre Facebook a chuté de plus de 9 % en bourse. Le PDG et fondateur Mark Zuckerberg a ainsi perdu plus de 6 milliards de dollars en valeur boursière. Kellogg doit payer 9 300 $. Le géant des céréales écope d'une amende pour avoir ciblé des enfants dans une publicité. L'entreprise de céréales Kellogg a été condamnée pour avoir proposé du matériel de coloriage et de bricolage affichant les personnages de Rice Krispies sur son site Web, faisant ainsi de la publicité destinée aux enfants. La publicité destinée aux enfants a un impact sur la qualité de l'alimentation des jeunes en augmentant leur préférence pour les aliments moins nutritifs et riches en calories. Elle influence leur connaissance alimentaire, leur attitude envers la malbouffe, ainsi que leurs préférences et comportements alimentaires, soutient Corinne Voyer, porte-parole de la coalition Poids, qui est à l'origine de la plainte de l'Office de la protection du consommateur déposée en 2015. Kellogg a plaidé coupable pour cette infraction liée à la loi sur la protection du consommateur qui interdit la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans. Cette décision tombe alors que le fédéral étudie un projet de loi sur la publicité destinée aux enfants. Des dons pour équiper des infirmières. Des infirmières de la Capitale-Nationale ont organisé une campagne de financement en vendant notamment des boîtes de mouchoirs pour se procurer 20 nouveaux appareils à signes vitaux en raison de la désuétude et du manque de machines sur leur étage. Un total de 27 810 $ a été amassé par l'équipe d'infirmières afin de fournir des appareils fixes à signes vitaux dans toutes les chambres de l'étage. Ces 20 appareils ont coûté 51 000 $ et le reste de la facture a été assumé par la Fondation du CHU de Québec. Vente de vêtements, soirées de danse et autres activités bénéfices, les infirmières ont mis beaucoup de temps en plus du boulot afin de trouver le financement. Tout l'argent recueilli au magasin, donc petit magasin sur l'étage nommé La Boutique, B-O-U-T-I-K, où les malades et leurs familles peuvent acheter des mouchoirs car le CHU n'en fournit pas en chirurgie générale, de l'eau, des collations et autres articles utiles. Donc, tout l'argent recueilli au magasin sert à améliorer leurs conditions et à mettre sur pied des projets pour les patients et les familles. Est-ce normal que des infirmières doivent se débrouiller elles-mêmes afin de se procurer des appareils à signes vitaux? Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, ça se peut. C'est pour ça qu'il y a un fonds à la Fondation. A invoqué Mme Lindsay Jacques, agente de communication au CHU de Québec. La ministre provinciale des Relations internationales et de la francophonie, Christine Saint-Pierre, veut que l'OIF dévoile le montage financier d'un projet proposé par la secrétaire générale, Michaëlle Jean. Mme Saint-Pierre croit que l'Organisation internationale de la francophonie doit donner plus de précisions concernant les coûts de la croisière sur l'Hermione. Il faut dire comment cette aventure-là est financée, c'est normal, a-t-elle soutenu hier en entrevue avec notre bureau d'enquête. « s'il prend le pouvoir, le Parti québécois abandonnera le projet de réseau express métropolitain REM de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Hier, Jean-François Lisée s'est notamment prononcé en faveur d'un réseau de tramway moins coûteux. Avec le budget totalisant 7,4 milliards, le même que celui prévu pour la réalisation du REM ou le REM, le PQ s'engage à réaliser tous les projets inclus dans sa stratégie de mobilité à Montréal, appelée le Grand déblocage. Le ministre des Transports, André Fortin, à l'instar du chef caquiste François Legault, a pour sa part qualifié d'irresponsable la promesse du PQ d'abandonner le REM. Selon lui, cela risquerait d'empêcher la réalisation de grands projets de transport en commun.
Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris? Souviens-toi le dimanche, on regardait passer ceux qui avaient de la chance, ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui ne sont pas à pied. On se contentait d'un banc ou d'un carré de pelouse et tu me disais, viens-t'en. Toi, tu regardais ma blouse. Quel beau dimanche c'était, et l'on s'aimait, et l'on s'aimait. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aie appris? Une fois de temps en temps, le cinéma de quartier, après c'était le restaurant, oubliant les cafés, envahis et troublés. En revenant chez nous, pas un mot entre nous, on se retrouvait très loin. Je crois tout au bout du monde, on s'oubliait très loin, à peine quelques secondes. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois. Rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris?
Et on passe des croisières méditerranéennes au bout du monde. Emmène-moi au bout du monde. C'était Marie-Denise Pelletier qui reprenait le grand Claude Léveillé, un extrait de son album dédié à Claude Léveillé qui s'intitule « L'éveillé entre Claude et moi ».
Les journaux régionaux, Le Soleil, l'Institut national de santé publique appuient le libre choix du casque de vélo. C'est à la une du Soleil, article d'Élisabeth Fleury. Après plusieurs années à proposer de rendre obligatoire le port du casque de vélo pour tous les cyclistes, l'Institut national de santé publique du Québec fait volte-face. Dans un long avis publié mardi, l'organisme recommande plutôt qu'on intensifie les efforts de promotion et qu'on mette l'accent sur le développement d'infrastructures sécuritaires pour les cyclistes partout au Québec. La pertinence de légiférer sur le port obligatoire du casque de vélo a fait l'objet de 3 commissions parlementaires, en 1996, en 2000 et en 2010. Mais aucune mesure législative n'a jusqu'ici été adoptée à l'échelle de la province. Le Réseau de la santé publique a participé à ces 3 commissions en proposant chaque fois de rendre obligatoire le port du casque de vélo pour tous les cyclistes, rappelle l'Institut, dans son avis de près de 200 pages. Face à la controverse entourant les effets positifs et négatifs d'une telle loi et considérant les récentes études publiées sur ce sujet, l'Institut... Je cherche le nom au complet parce qu'on écrit ici INSPQ. C'est l'Institut national de santé publique du Québec a reçu le mandat du ministère de la Santé d'analyser de nouveau le dossier. Après avoir réalisé une importante revue de la littérature, l'Institut a changé son fusil d'épaule. D'emblée, l'INSPQ rappelle que le casque de vélo est très efficace pour prévenir les blessures à la tête chez les cyclistes. Les preuves scientifiques indiquent en effet qu'il peut prévenir entre 50 et 69 % des blessures à la tête. Quelques pays ont légiféré pour rendre obligatoire le port du casque de vélo, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le port du casque de vélo est également obligatoire pour tous les cyclistes en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et en Colombie-Britannique, alors qu'en Ontario, au Manitoba et en Alberta, cette obligation ne vise que les jeunes de moins de 18 ans. Au Québec, la municipalité de Sherbrooke a été en 2011 la première à obliger le port du casque de vélo chez les jeunes de moins de 18 ans. Dans son avis, l'Institut souligne que bien que l'on constate une augmentation de l'utilisation du casque de vélo après l'instauration d'une loi, cette utilisation dépasse rarement les 80 % chez les cyclistes. Certains groupes, comme les adolescents, sont plus réticents à le porter, note-t-il. Au Québec, observe l'Institut, la proportion de cyclistes qui portent un casque de vélo est déjà assez élevée. En 2014, soit la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, 53 % des cyclistes le portaient. En Outaouais et dans Chaudière-Appalaches, cette proportion atteignait 70 %. Chez les 5 à 9 ans, cette proportion était de 78 %, ce qui est proche du maximum de 80 % atteignable par une loi. Selon lui, donc selon l'Institut, ces résultats suggèrent qu'il serait possible d'augmenter significativement le pourcentage de port du casque sur une base volontaire dans les régions où ce pourcentage est inférieur à 70 %. L'ensemble de ces arguments incite l'Institut à appliquer le principe de précaution et à ne pas recommander de rendre obligatoire le port du casque de vélo. Ce type d'infrastructure permet d'agir sur tous les cyclistes, indépendamment de leur statut socio-économique, ce qui est d'autant plus important, sachant que les campagnes de promotion du casque de vélo sont moins efficaces dans les milieux défavorisés et que le pourcentage de port du casque est moins élevé dans ces milieux, conclut l'Institut. Dans la tribune Jonathan Cousteau, la rue King West se refera une beauté à 5 endroits à cet été grâce à une partie des sommes investies dans la réfection des chaussées. La ville prévoit 8,9 millions, dont 1,1 million proviennent des sommes inutilisées l'an dernier pour réaliser 27 projets dans des rues pavées. Sur King West, il faudra donc être patient au moment d'effectuer les travaux de resurfaçage dans les deux directions entre le boulevard Jacques-Cartier et la rue Hennecker. Les voies nord se couvriront de neuf entre les rues Wellington-Nord et Belvedere-Nord et entre les rues du Bocage et Marconi. Les voies sud feront de même entre les rues Belvedere-Sud et Brooks et entre les rues Marconi et Don Bosco-Sud. D'autres artères importantes feront aussi l'objet de travaux, dont la rue Belvedere-Sud entre Galt-Ouest et le viaduc adjacent au marché de la gare et le boulevard de Portland entre les rues Farwell et Routier. Malgré certains souvenirs météorologiques difficiles, c'est dans le soleil sous la plume d'Isabelle Houde, Éric Emmanuel Schmitt est enchanté à l'idée de revenir au Salon international du livre de Québec, graduant d'invité à président d'honneur depuis sa dernière présence en 2011. « Pour Québec, il y a toujours de la place dans mon cœur », a-t-il lancé dans une vidéo enregistrée. Lui qui s'enorgueillit de sa belle relation avec les lecteurs québécois depuis 20 ans, des lecteurs riches de leurs émotions. C'était jour de dévoilement mardi de la toujours très chargée programmation du Salon du Livre de Québec. Éric Emmanuel Schmitt, qui a lancé avec une pointe d'humour avoir adapté sa garde-robe au printemps québécois, sera présent tout au long de l'événement du 11 au 15 avril, avec en poche un tout nouveau roman, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Une bonne nouvelle pour les fans, puisque Joanne Mongeau, responsable des communications de l'événement, a encore bien en mémoire les films monstres de lecteurs aux séances de signature de l'auteur en 2011 qui étiraient toujours ses présences. De quoi corroborer M. Schmitt lorsqu'il disait dans son message enregistré « Avoir le souvenir de terminer ses journées en ayant l'impression d'avoir lu un livre de 1000 pages, 1000 histoires, 1000 rencontres ». On connaissait déjà la venue du président d'honneur et celle de l'écrivaine française Catherine Pancol comme invitée d'honneur le samedi 14 avril. Les autres invités d'honneur seront Caroline Chouinard, auteur jeunesse de Lévis. Mais je pense qu'il faut dire Caroline parce que « auteur » est écrit avec un « e » à la toute fin. Naomi Fontaine, auteur de Québec et figure de proue de la littérature autochtone. André E. A. Michaud, auteur de « Polar auréolé de prix ». Et Normand Baillargeon, philosophe et essayiste. Dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan a mis Lafrenière à la finale internationale de la dictée PGL. Deux élèves de la région se sont démarqués lors des finales régionales de la dictée PGL, Paul Gérin-Lajoie, et prendront part à la grande finale internationale de cette dictée le 20 mai à Montréal en compagnie de quelques 80 jeunes qui se démarquent par leur excellente connaissance du français. Il s'agit d'Émy Lafrenière de l'École des Vallons de Saint-Paulin et de Violette Pétrin de l'École Cyril Brassard de Saint-Cyril de Wendover. Notons qu'un deuxième finaliste représentera aussi le centre du Québec. Il s'agit d'Émile Gobeil du Collège Saint-Bernard de Drummondville. Le concours prévoit en moyenne un finaliste par 6 participants et moins. En Mauricie, seuls 3 élèves avaient pris part à la finale régionale qui se tenait le 15 mars dernier. Le 20 mai, des compétiteurs des quatre coins du Québec, du Canada, du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc et des États-Unis s'affronteront au cours de la finale internationale. Le concours, qui fait appel à la maîtrise du vocabulaire et des règles de grammaire, permet aux enfants d'améliorer leur français tout en se sensibilisant à l'importance de la solidarité internationale, de la diversité et du vivre ensemble. Cette activité linguistique est orchestrée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et vise les enfants de la maternelle à la 2e année du secondaire. Elle a pour thème cette année « L'art s'affiche à l'école ». Et dans le quotidien, Joanne Saint-Pierre, les inscriptions vont bon train. L'engouement pour le baseball se maintient au sein de l'Organisation du baseball mineur de Jonquière. Président de l'OBMJ, donc l'Organisation du baseball mineur de Jonquière, Frédéric Truchon constate que les inscriptions en cours vont bien dans certaines catégories, voire en hausse par rapport à la même date l'an dernier. On prévoit accueillir le même nombre d'équipes que l'an dernier. Présentement, on est rendu à 150 inscriptions. Il reste encore 2 semaines. L'an passé, nous avions 330 joueurs, mais à pareille date, nous n'avions pas autant d'inscrits, mentionne le président Truchon. Ce sont majoritairement des garçons, mais on commence à voir plus de filles qu'avant. L'an passé, nous avions une équipe féminine. Cette année, nous devrions en avoir une dans le moustique, 10-11 ans. Les jeunes nés en 2013 peuvent s'inscrire au programme Rallye Cap. C'est d'ailleurs la catégorie qui traîne le plus de la patte dans le programme puisque les parents ne sont pas encore familiers avec l'association. L'an passé, nous avions eu 70 inscriptions et là, on n'en a que 12, mentionne Frédéric Truchon. Pour les jeunes de 7 ans qui en seront à leur 3e année de Rally Cap, l'OBMJ innovera avec la catégorie Grand Chelem. C'est comme un entre-deux entre le rallye ou le rallye cap et la tombe. Ils vont jouer un peu plus de parties que dans les dernières années pour garder l'engouement parce que souvent, les troisièmes années commençaient à trouver ça long. On veut faire une transition, explique Frédéric Truchon. Pour le rallye cap, les entraînements hebdomadaires ont habituellement lieu les mardis et jeudis. Le tournoi provincial Moustique sera de retour cette année au stade Arvida. Le tournoi débutera donc le 9 juillet pour se terminer le dimanche 15 juillet. Dans le A, on passera à 16 équipes et à 12 dans le B. On attend encore 6-7 équipes de l'extérieur, toutes catégories confondues.